Je voudrais faire une petite introduction sur la question « Pourquoi ce colloque du 400e anniversaire ?» On connaît ce siège de 1622, les exploits des défenseurs, la férocité des vainqueurs. On en parle encore à Saint-Antonin. Il y a des livres récents de Saint-Antoninois, l'un d'eux est parmi nous, qui nous le raconte ce siège. Il y a celui de Michel Ferrer qui est là, un livre de 2005, que vous pouvez trouver ici sur la table. Celui de Jean-Baptiste Foll, plus récent, 2018, lui-même rédigé après une conférence qu'il avait faite ici, déjà avec l'aide de Jean-Pierre Amalric, en 2017. Il discutait d'ailleurs la position topographique choisie par Louis XIII pour suivre les opérations. Vous vous souvenez, un débat que nous avons eu à ce moment-là. Mais comment ce passé lointain pèse sur notre présent? Voilà une question à laquelle on ne sait trop répondre aujourd'hui. Même Jean Donat, notre fondateur, le fondateur de la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin, qui était un érudit historien, dans son Histoire du mouvement protestant à Saint-Antonin, c'était en 1932, ne sait pas répondre à la question, il le dit d'ailleurs, pourquoi Saint-Antonin est devenu à la Renaissance une république protestante? Et qu'en reste-t-il aujourd'hui? Donc on a bien des questions qui restent, même si on connaît le détail du déroulement du siège. Et c'est là qu'a joué l'initiative de Jean-Pierre Amalric, je le salue vraiment, membre de notre association et plus que cela, compagnon de route, je pourrais dire. Historien de l'histoire moderne, il sait combien la recherche historique est abondante et vivante sur ces questions, et pas seulement l'Académie de Montauban qui a tenu l'an dernier, elle aussi, un colloque du 400e anniversaire, mais d'un autre siège. Jean-Pierre Amalric savait à qui s'adresser, et ce sont nos orateurs de ce matin, d'aujourd'hui. Ce matin d'abord, deux grands universitaires venus de Lyon, pardon pour l'adjectif, respectivement professeur et maître de conférence à l'université Jean Moulin à Lyon, Lyon 3, Yves Krumenacker qui est ici à ma gauche et qui va être le premier intervenant, merci à vous d'être venus, et c'est un voyage tout de même, et Pierre-Jean Souriac, également venu de Lyon, mais passé par Toulouse. À la lumière de leurs travaux, ils nous donneront à voir cet événement avec le recul nécessaire, son contexte européen, sa place dans la chronologie des rapports entre les protestants de France et la monarchie. Cet après-midi, nous aurons des regards un peu plus rapprochés, celui de Georges Passerat, qui ne peut venir que cet après-midi, célèbre président de la Société archéologique et historique du Tarn-et-Garonne, vous le connaissez, il est déjà venu ici. Il parlera sur la prise et le massacre de Nègrepelisse la même année, 1622. Je souhaite la bienvenue aux représentants de la commune de Nègrepelisse. Ils ont déjà pu venir ce matin. Nous étions allés à leur 400e anniversaire il y a quelques semaines. Nous aurons le regard de Guy Astoul, président de la Société montalbanaise d'études et de recherches sur le protestantisme, qui n'est pas encore arrivé, il me semble. Si ? Alors, je ne l'ai pas salué. Alors, je le salue, puisqu'on n'a pas eu le temps. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Sur l'enjeu stratégique que pouvait représenter la place de Saint-Antonin, à l'époque de ce siège. Et enfin celui de Jean-Pierre Amalric, sur le sens de cette campagne dont Louis XIII a voulu prendre la responsabilité. Les mêmes intervenants se réuniront ensuite pour finir à 18h, sans Guy Astoul malheureusement, car il doit se ménager pour de bonnes raisons, pour explorer ce que nous dit aujourd'hui cette histoire. Par exemple, a-t-on raison de parler encore de guerre de religion? À l'époque, déjà, on parlait plutôt de troubles. C'est ce que disait en tout cas Jeannine Garrison dans ses livres. Comme aujourd'hui, il faut peut-être regarder au-delà de ces apparences, même si l'expression « guerre de religion » est tout à fait installée. Et puisqu'il y a bien guerre malgré tout, comment conserver la mémoire de cela tout en survivant aux violences et aux traumatismes? Voilà des questions qui pourraient être évoquées dans une table ronde entre les intervenants. Merci à eux de s'y préparer et d'y participer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vais donner la parole pour commencer à Yves Krumenacker. Merci.
Pour poursuivre avec l'introduction de Thierry Leroy, je vais avoir le plaisir d'introduire l'intervention de Yves Krumenacker, qui revient le rôle de brosser, je dirais, un plan large de la situation du protestantisme au début du XVIIe siècle, dans les premières années du XVIIe siècle, c'est-à-dire après les années terribles des guerres de religion de la fin du XVIe siècle. Yves Krumenacker est donc professeur à l'université Jean Moulin Lyon 3. C'est un ancien élève de l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Et il est spécialiste d'histoire religieuse et particulièrement d'histoire du protestantisme. Il a fait une thèse de doctorat sur les protestants du Poitou, sous la direction de Jean Delumeau, historien des religions très connu. Et donc, je lui cède la parole pour nous présenter ce protestantisme sur la défensive qui caractérise le début des années 1620.
Bien, merci pour cette présentation. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Et sans plus tarder, pour qu'on finisse bien à 13 heures, je vais commencer. Donc, en juin 1622, les troupes de Louis XIII s'emparent de Négrepelis, dont elles massacrent les habitants, puis font le siège de Saint-Antonin. Ces opérations militaires qui ont fortement marqué la région peuvent sembler étranges d'une certaine manière, car elles peuvent être considérées comme un épisode des guerres de religion qui ont déchiré la France entre 1562 et 1598. Si l'édit de Nantes n'avait pas mis instantanément fin aux tensions entre catholiques et protestants, du moins les conflits armés avaient-ils disparu. Et voilà que plus de 20 ans après, la guerre reprend. Certes, la réunion du Béarn à la France, la catholicisation des institutions de la province, la vigueur des entreprises missionnaires menées par les jésuites et les capucins expliquent que l'Assemblée générale de La Rochelle, à partir de décembre 1720, appelle les protestants à la résistance et divise le royaume en cercles militaires afin de se défendre contre une offensive catholique. Mais assez peu de grands seigneurs protestants, Rohan, Soubise, le comte d'Orval, le duc de la Force, sont vraiment prêts à se battre. Aussi, cette nouvelle guerre de religion qui débute en avril 1621 avec l'entrée en campagne de l'armée royale peut-elle sembler anachronique et peu compréhensible. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous parler de cela parce que c'est le sujet de la conférence qui suit. Mais pour mieux comprendre ce regain de violence religieuse en France, je vais décentrer le regard et examiner ce qui se passe ailleurs en Europe, où la réforme catholique se déploie, où certains princes catholiques s'attaquent aux droits des protestants, où ce que l'historien Alphonse Dupron a appelé une émotion de croisade se développe, où inversement, les protestants sont persuadés de la réalité d'une internationale catholique destinée à éradiquer la réforme et où certains croient à l'imminence des derniers temps. Le protestantisme européen, et bien des seigneurs huguenots y sont sensibles, pensent qu'il faut mener le combat pour la survie. D'une certaine manière, les sièges de Négrepelis et de Saint-Antonin participent d'une sorte de guerre de religion à l'échelle européenne. À cette période se déploie une véritable réforme catholique. C'est au cours de la seconde moitié du XVIe siècle que les fronts confessionnels se sont fixés. Dans le Saint-Empire romain germanique, hein, comme on peut le voir sur la carte, je ne sais pas si c'est très lisible partout, mais en gros, en jaune, on est dans des zones catholiques. En rouge, orange, rouge, mauve, enfin les différentes variantes, zones plutôt protestantes. En tout cas, dans le Saint-Empire romain germanique, la paix d'Augsbourg de 1555 établit que chaque prince décide de la religion, catholique ou luthérienne, de son État. Dans l'espace helvétique, donc un peu plus au sud, les blocs confessionnels se constituent dès 1530 et vont se modifier peu jusque dans les années 1560. Au Danemark et en Norvège, l'instauration de la réforme a lieu vers 1536-37, mais l'enracinement dans le protestantisme ne se fait que dans la seconde moitié du siècle. En Suède, la réforme est imposée en plusieurs étapes sous le roi Gustav Vasa, qui règne jusqu'en 1560, mais elle ne triomphe vraiment qu'à l'avènement de Charles IX en 1604. En Angleterre, la rupture entre Henri VIII et le pape en 1534 entraîne un passage progressif mais sinueux vers la réforme jusqu'à l'acte d'uniformité de 1559. Donc je vous donne toute une série de dates, mais ça montre un peu la proximité de ces dates. En gros, entre 1530 et 1555, tout se joue dans la division religieuse de l'Europe. Alors, l'Europe centrale et orientale a une situation plus complexe. À l'est du Saint-Empire, en Silésie, le luthéranisme s'est implanté rapidement, solidement, jusque vers 1580, période où le protestantisme représente 90% de la population. En Bohême-Moravie, l'implantation ancienne de ce qu'on appelle l'église utraquiste et des frères tchèques, qui sont les héritiers du mouvement hussite, donc un peu plus ancien, cette implantation est un terreau fertile pour la réforme. Et le roi Maximilien doit reconnaître en 1575 la Confessio Bohemica, sorte de compromis entre les utraquistes et les frères tchèques. Les catholiques ne forment alors plus que 10 à 20% de la population. La proportion est à peu près la même vers la fin du XVIe siècle en Hongrie. Hongrie qui est alors divisée en Royaume de Hongrie, Hongrie centrale qui est en réalité occupée par les Turcs, et Transylvanie qui est une principauté vassale de l'Empire ottoman. En Pologne-Lituanie, enfin, la réforme progresse surtout sous le règne de Sigismond Auguste, 1548-1572, mais elle se divise en de nombreux courants, dont les anabaptistes et les unitariens. Les Pays-Bas constituent un cas particulier. La réforme s'y est implantée précocement, surtout dans les villes du Sud, mais elle s'est heurtée à l'intransigeance espagnole, les rois d'Espagne étant également princes des Pays-Bas. Cela a provoqué une révolte en 1566, puis une véritable guerre à partir de 1568. Le résultat, on en reparlera un peu plus tard, est la partition du pays, le sud restant catholique et espagnol, le nord devenant indépendant sous le nom de Provinces-Unies. Avec, dans le cas des Provinces-Unies, une population majoritairement protestante, composée notamment de personnes venues du sud et qui ont émigré vers le nord, justement. Le reste du continent, donc on voit bien, c'est le jaune, très dominant, le reste du continent reste fermement catholique, même si des groupes réformés subsistent quelquefois. En Italie, c'est dès les années 1540 que l'Inquisition les condamne à la clandestinité. En Espagne, la répression, la fermeture triomphe entre 1557 et 1560. La France apparaît comme un cas intermédiaire. Il apparaît clair dès les années 1560 que le royaume ne basculera pas dans le protestantisme, mais l'impossibilité d'un triomphe total du catholicisme amène à l'édit de Nantes, qui instaure un État catholique abritant des églises protestantes protégées par la loi. Le protestantisme, qui avait beaucoup progressé jusque-là, on voit bien qu'une partie importante de l'Europe a été touchée par le protestantisme, donc ce protestantisme n'est plus aussi conquérant. Peu de princes se rallient désormais à la réforme. Les conversions individuelles qui avaient été importantes du temps de Luther puis de Calvin ne sont plus aussi nombreuses. Et surtout, le protestantisme est divisé fortement entre luthériens et calvinistes qui s'entendent très mal. Dans le Saint-Empire, les luthériens n'hésitent pas à affirmer qu'il vaut mieux être catholique que calviniste. C'est désormais l'Église catholique qui est la plus dynamique quand on se situe à la fin du XVIe siècle. La fin de l'expansion protestante, la tenue du Concile de Trente, qui se termine en 1563, les premiers succès missionnaires ont redonné de l'entrain au catholicisme. Les papes qui se succèdent depuis Pie IV en 1559 jusqu'à Grégoire XV en 1621 ont rétabli le prestige de la papauté. Ils ont réorganisé le gouvernement pontifical, davantage contrôlé les églises locales, ils ont mis en œuvre les réformes conciliaires, ont fait de Rome la vraie capitale du catholicisme. Les évêques présents dans leur diocèse, visitant leur paroisse, même si ça se met lentement en place, mais ça commence à se faire quand même, des évêques, on a de plus en plus d'évêques soucieux de la formation du clergé, de l'éducation des chrétiens. Les ordres religieux connaissent un essor exceptionnel, en premier lieu la Compagnie de Jésus. Mais il faut noter aussi la croissance considérable des ordres féminins. À leurs activités contemplatives ou apostoliques s'ajoute désormais le souci de combattre le protestantisme par la mission, la controverse théologique ou l'éducation. La France est une bonne illustration de ce dynamisme catholique. Le haut clergé se renouvelle, s'ouvrant légèrement socialement, accueillant davantage de diplômés en théologie, avec quelques figures inspirées par le modèle par excellence, celui de l'archevêque de Milan, Charles Borromée. Ces figures, ces nouveaux évêques, sont soucieux de réformer les abus, les manquements du clergé. Quelques diocèses commencent à ouvrir des séminaires, et surtout les ordres religieux se multiplient. Les jésuites, même s'ils sont interdits en France entre 1595 et 1604, les capucins, les minimes, les feuillants, les récollets, etc. Les ordres contemplatifs féminins connaissent, donc je l'ai déjà dit, une vitalité remarquable, carmélite, déchaussée, visitandine, ursuline et bien d'autres. La multiplication des établissements religieux, l'aspiration à une alliance entre la mystique et l'action charitable, l'idée développée par François de Sales que tout laïc peut être un dévot, le renouveau de ferveurs populaires comme les processions, les pèlerinages, les prières continues, tout cela concourt à donner un réel dynamisme au catholicisme au moment où le protestantisme cherche avant tout à se consolider et à structurer les communautés. En but aussi bien à l'attraction spirituelle du catholicisme qu'aux tracasseries juridiques pour empêcher son développement, le protestantisme se sent sur la défensive. D'autant que se développe à ce moment-là du côté catholique un véritable esprit de croisade. Ce nouvel élan de l'Église catholique fait en effet espérer une reconquête des peuples et des territoires perdus au profit des protestants comme des turcs, mais fait espérer aussi une christianisation en profondeur des campagnes ainsi que des terres lointaines d'Amérique, d'Afrique et d'Asie. On a là des champs d'action très différents, mais qui, dans l'esprit du sommet de la hiérarchie catholique, ce sont des champs à mener vraiment en parallèle. Annoncer le Christ au monde entier, rassembler toute l'humanité sous l'autorité du pape successeur de Pierre, semble, pour les catholiques de l'époque, un objectif réalisable. Un véritable esprit de croisade anime certains, comme Charles de Gonzague, que vous voyez à gauche, Charles de Gonzague, duc de Nevers, ou à sa droite, ou à sa gauche plutôt, mais à droite sur l'écran, le père Joseph. Le premier, Charles de Gonzague, très pieux, multiplie en compagnie de son épouse Catherine de Lorraine les fondations pieuses, les abbayes, les monastères, les collèges, les hôpitaux. Descendant par sa mère de l'ancienne famille des empereurs byzantins, les paléologues, il envisage la création d'un ordre de la milice chrétienne qui aurait dû marcher sur Constantinople à partir de la Pologne. Et pour cela, il a le soutien du roi de Hongrie, de l'empereur Matthias III. Il arme des vaisseaux pour transporter des troupes en Grèce. Le projet, on le sait, ne se réalisera pas. Mais Charles va mourir en 1637, vêtu comme un frère franciscain. Second de ces personnages, né Joseph Leclerc du Tremblay en 1577, il meurt en 1638, donc presque la même année, enfin un an après Charles de Gonzague. Joseph Leclerc du Tremblay est né dans une famille de notables parisiens, à la croisée de la robe et de l'épée. Il reçoit une éducation militaire. En 1597, il participe au siège d'Amiens, donc pendant les guerres de religion, on va dire les vraies, enfin, celles du XVIe siècle en tout cas. On verra peut-être dans le débat si ce sont des guerres de religion ou pas. Appelons-les comme cela pour l'instant. Mais après avoir fréquenté les cercles dévots parisiens, notamment le salon de Madame Acari, avoir fréquenté André Duval, Pierre de Bérulle, Benoît de Canfield, donc c'est vraiment les grands noms de la spiritualité catholique du début du XVIIe siècle, après cela, Joseph du Tremblay décide de quitter le monde, d'entrer chez les Capucins. Il ne fera pas une carrière d'épée, mais se considérera comme une sorte de soldat de Dieu. Prêtre en 1604, il devient rapidement un membre important de son ordre. Il multiplie les initiatives, il devient le principal conseiller de Richelieu, notamment pour les questions européennes. Son objectif est de protéger l'Église chrétienne, donc, selon lui, catholique, contre tous ses ennemis. Pour cela, il faut établir la paix en Europe afin d'unir tous les princes chrétiens dans une croisade contre les Turcs. Son projet est longuement exposé dans un vaste poème en latin offert en 1625 au pape Urbain VIII, intitulé « La Turciade ». Restaurer l'unité de la chrétienté, libérer les lieux saints, pacifier l'Europe, passe par la lutte contre les Turcs. Mais pour cela, il faut lutter contre les protestants, mais aussi contre l'Espagne qui, pense le père Joseph, se bat pour l'hégémonie en Europe et non pas pour le catholicisme. Lutter contre les protestants, lutter contre l'Espagne, c'est éliminer tous ceux qui pourraient s'opposer à la croisade. Cela explique que le père Joseph soit associé au projet de milice chrétienne de Charles de Gonzague. Tous deux envisagent qu'une armée, principalement française, s'empare de Constantinople. Pendant que l'empereur Mathias serait à la tête d'une autre armée, qui, avec celle de l'archiduc Ferdinand de Styrie, qui devient empereur en 1619, attaquerait les Turcs en Hongrie, avec l'aide de Cosaques installés aux confins de la Pologne, et qui a une stratégie européenne très vaste. Pendant ce temps-là, sur mer, devraient agir les flottes du roi de France, du vice-roi de Naples et de l'Espagne. Le père Joseph, Charles de Gonzague, espère également le soutien des Druzes du Liban, des Géorgiens, des Arméniens, des Éthiopiens et même de la Perse pour des opérations de revers contre l'Empire ottoman. Il y a donc un projet très avancé de croisade, même s'il est parfaitement chimérique. Il suppose en tout cas une alliance de tous les États catholiques, ce qui, aux yeux des protestants, signifie l'existence d'une internationale catholique désirant imposer le catholicisme au monde entier. Si les Turcs sont les premiers visés, d'autres pourraient l'être aussi. Dans l'esprit du père Joseph, ceux qui s'y opposent, notamment les Habsbourg, doivent être combattus, les protestants aussi, évidemment. En France, le père Joseph est un des promoteurs des missions intérieures, hein, ces missionnaires qui vont dans les campagnes pour christianiser en profondeur et éradiquer éventuellement par la parole, mais éradiquer quand même le protestantisme. Et le père Joseph finit par considérer les protestants comme des disciples de Satan, au même titre que les musulmans. Or, c'est le principal conseiller de Richelieu. Son opinion n'est pas isolée à l'époque. L'ancien curé ligueur Jean Boucher, qui avait glorifié l'assassin d'Henri III, Jacques Clément, Jean Chastel, qui avait tenté de faire de même sur Henri IV, Jean Boucher glorifie également Jean Chastel, qui avait tenté d'assassiner Henri IV, ce Jean Boucher publie en 1624 une couronne mystique dans laquelle il appelle à une alliance des puissances catholiques contre la triple offensive diabolique symbolisée par les hérétiques, les musulmans et les sorciers. Des hommes comme lui sont significatifs d'une partie du monde catholique travaillée par une fièvre messianique prête à imposer par la force un mode de vie catholique. Richelieu lui-même, souvent décrit comme l'homme de la raison d'État, fait très souvent allusion dans ses mémoires à, je cite, « la vengeance de Dieu qui s'abat sur les protestants en France comme dans l'Empire ». De telles idées font craindre cette internationale catholique qui chercherait à détruire le protestantisme. Alors, il s'agit en grande partie d'un fantasme. Pour ces hommes épris de croisade, l'ennemi est l'islam, plus que la réforme protestante. Dans ses plans chimériques, le père Joseph est même prêt à s'allier aux États protestants allemands, à s'allier également à l'Angleterre et aux Provinces-Unies, pourvu que cette coalition combatte les Ottomans et qu'elle se fasse sous la conduite de la France. D'autre part, les États catholiques sont en réalité très désunis. J'ai mentionné plusieurs fois l'antagonisme entre les Bourbons et les Habsbourg, hein, qui montre bien que cet idéal d'international catholique ne tient pas, dès qu'on examine un peu les choses de près. Mais l'actualité du premier quart du XVIIe siècle semble pourtant donner raison à ceux qui craignent cette grande coalition anti-protestante sous la bannière du pape. On a en effet des attaques contre le protestantisme qui se multiplient partout en Europe. Le conflit le plus grave directement à l'origine de la guerre de 30 ans, se déroule en Bohême. Les catholiques y sont minoritaires face aux utraquistes alliés à la réforme luthérienne et à l'unité des frères, des hussites radicaux qui sont très proches du calvinisme. Mais à la fin du XVIe siècle, l'extinction de nombreuses grandes familles aristocratiques permet aux rois de Bohême, qui sont toujours des Habsbourg, de s'entourer de familles très catholiques, comme les Slavata, les Lobkowitz, etc. Les jésuites obtiennent le collège de Prague, Clementinum, 1566. Puis en 1622, ils obtiennent l'intégralité du système éducatif du pays, dont l'université Saint-Charles, ce qui leur permet de former les élites et d'obtenir de nombreuses conversions dans la noblesse. Dans tout le pays, des séminaires sont fondés et les ordres religieux sont réformés, dotant le catholicisme d'un réel dynamisme. Au début du XVIIe siècle, un conflit entre l'empereur et en même temps roi de Bohême, Rodolphe II, et son frère Matthias tourne malgré tout à l'avantage des protestants. Pour obtenir l'appui protestant dans ce conflit entre les deux frères, donc Rodolphe et Matthias, Rodolphe accorde en 1609 aux protestants une lettre de majesté qui proclame la liberté religieuse, qui remet l'université de Prague aux protestants, qui permet à leurs représentants à la diète de Bohême de désigner 30 défenseurs chargés de veiller à l'application de la lettre de majesté. Donc le protestantisme semble protégé au début du XVIIe, mais l'application de la lettre de majesté se fait en réalité au bénéfice des catholiques. De 1611 à 1617, l'abbé de Braunau, ou Brumhoff, demande la destruction d'un temple situé sur les terres de son abbaye et il obtient satisfaction de l'empereur. En 1617, c'est l'archevêque de Prague qui demande la fermeture d'un temple construit sur ses domaines à Klostergrab. La délégation envoyée par les protestants pour s'y opposer est arrêtée dès qu'elle arrive à Prague. Le même archevêque, entre 1611 et 1617, place sous son autorité 132 paroisses où l'on célébrait auparavant le culte protestant. Le pouvoir politique favorise donc systématiquement la contre-réforme catholique. Or, la succession de Matthias, qui était monté sur le trône en 1611, suscite des inquiétudes, car c'est son cousin Ferdinand de Styrie, connu pour être un catholique intransigeant, proche des Espagnols, soumis aux jésuites, et décidé à faire en sorte que l'État poursuive les hérétiques par tous les moyens, c'est ce Ferdinand de Styrie qui doit lui succéder. Il devient effectivement roi de Bohême en 1617. La diète approuve son élection, contre néanmoins confirmation de la lettre de majesté. Les choses se précipitent alors. Les défenseurs protestants convoquent une assemblée en mars 1618 pour protester contre ces incidents de Brumhoff, Braunau et Klostergrab, et ils adressent une lettre à l'empereur. Leur assemblée est interdite, une autre est prévue en mai, les défenseurs sont convoqués au château de Prague, mais le 22 mai, les protestants au château défenestrent les lieutenants de l'empereur. La guerre éclate alors entre la Bohême, qui ne reconnaît plus son roi Ferdinand, et désigne comme roi le prince calviniste du Palatinat, Ferdinand V. Des combats, je ne vais pas rentrer dans le détail évidemment, des combats, on ne peut ne retenir que la victoire impériale de la Montagne Blanche, le 8 novembre 1620, lue comme une victoire catholique obtenue grâce à la Vierge Marie. C'est en tout cas la lecture catholique, hein, évidemment. La Bohême est ensuite reconquise par les troupes impériales. Les rebelles sont impitoyablement punis. La lettre de majesté est abolie. La religion catholique est seule autorisée. Les pasteurs calvinistes, les prêtres de l'unité des frères et les pasteurs luthériens sont chassés en 1621 et en 1623-1624. Les protestants perdent leurs droits de bourgeoisie en 1624. Ils ne peuvent plus accéder aux charges administratives et municipales. Ils n'ont plus le droit de se marier. On leur retire leurs enfants. Le pays est brutalement recatholicisé. Des religieux viennent de toute l'Europe prendre possession des paroisses. Donc, premier épisode d'une recatholicisation brutale justement au début des années 20, presque contemporain des sièges qui nous intéressent aujourd'hui. Dans le Saint-Empire, la règle issue du conflit entre princes protestants et catholiques et de la paix d'Augsbourg de 1555 est que chaque prince peut décider de la confession de ses états, entre catholicisme et luthéranisme. Dans les faits, les conflits sont nombreux, surtout à partir de la fin du XVIe siècle, avec, là aussi, une Église catholique de plus en plus conquérante. Le premier coup de force, c'est plutôt à l'ouest, c'est ce qu'on appelle la guerre de Cologne, 1583-1588, suivi de l'expulsion du prince-évêque de Cologne, Gebhard Truchess von Waldburg, qui est un évêque qui s'est converti au luthéranisme. Et donc cet évêque devenu luthérien est chassé de ses terres parce qu'il voulait transformer ses terres qui étaient à la fois un archevêché mais en même temps une principauté. Il était prince-évêque, il voulait les transformer en terres luthériennes. Et cela révèle un point laissé en suspens par la paix d'Augsbourg parce que si chaque prince peut décider de la confession de ses états, qu'en est-il des princes ecclésiastiques ? Alors, il y avait bien, c'était bien traité par la paix d'Augsbourg, ce qu'on appelait le Ius Reformandi, mais l'interprétation était délicate. L'interprétation catholique était qu'un évêque devenu luthérien abandonne son pouvoir spirituel et qu'il est remplacé par un prince ecclésiastique nommé par Rome. Interprétation que les luthériens n'acceptent pas. D'où cette guerre de Cologne. Puis éclate la guerre des évêques à Strasbourg, 1592. Que se passe-t-il là ? À la mort de l'évêque, deux candidats s'affrontent pour succéder à cet évêque, mais l'un des candidats est luthérien, l'autre catholique. Bon, là encore, il n'y a pas qu'un pouvoir spirituel, il y a des terres en jeu. Les princes protestants et le magistrat de Strasbourg vont lutter contre les princes catholiques, dont la maison de Lorraine, dans une véritable guerre qui met pendant quelques années l'Alsace à feu et à sang. Elle n'est résolue, cette guerre n'est résolue qu'en 1604, avec la nomination d'un évêque très catholique, Charles de Lorraine, mais après 12 ans de conflit. Mais cet évêque, Charles de Lorraine, est interdit à Strasbourg même. Il doit résider à une trentaine de kilomètres de là, à Saverne, Strasbourg même, et la cathédrale de Strasbourg reste luthérienne. La tension monte encore avec la réduction à l'obéissance en 1608 par le duc Maximilien de Bavière, sur ordre de l'empereur, de la ville libre et protestante de Donauwörth. Donc on est du côté de la Bavière, donc au sud cette fois du Saint-Empire. Donauwörth, c'était une petite ville biconfessionnelle dans la vallée du Danube. Un peu une exception. Il y a quelques villes comme ça au Saint-Empire où on n'a pas une uniformité confessionnelle, mais certaines ont eu le droit de garder deux confessions, catholiques et luthériennes. C'était le cas de Donauwörth. Mais les catholiques se font agresser en 1605 lors de la procession de la Saint-Marc, procession traditionnelle, et donc le duc Maximilien de Bavière rétablit l'ordre. Les incidents se renouvellent en 1607. L'empereur Rodolphe II demande à Maximilien d'intervenir à nouveau et lui donne la ville, ville qui était libre jusque-là, qui du coup est incorporée au duché de Bavière. Donc Donauwörth est intégrée au duché, les habitants protestants doivent se convertir au catholicisme. Alors Donauwörth n'est pas un cas isolé, c'est le plus connu, mais entre 1595 et 1618, une trentaine de cités impériales connaissent des troubles qui sont toujours résolus au profit des catholiques. Dans l'Empire en général, la reconquête catholique opérée par les jésuites est particulièrement importante. Ces jésuites cherchent à faire nommer des chanoines catholiques dans les diocèses où, comme à Strasbourg, les évêques sont élus par des chanoines. Donc il est important que ces chanoines soient majoritairement catholiques, évidemment. Les jésuites manœuvrent pour que ce soit bien des catholiques qui soient nommés à la tête des évêchés, et non pas des luthériens comme on aurait voulu le faire à Strasbourg. Et ils réussissent dans un certain nombre de cas, disputés, Würzburg, Brême, Osnabrück, Paderborn, etc. Ces jésuites ouvrent des collèges, comme Ingolstadt en Bavière, ouvert en 1556, qui va former une bonne partie des élites catholiques germaniques. Les jésuites cherchent à influencer la politique des princes. Ils sont en particulier confesseurs des empereurs et des ducs de Bavière. Dans les principautés ecclésiastiques, le protestantisme est interdit. En 1609, éclate un nouveau conflit. Là, il faut aller pas très loin de l'embouchure du Rhin, à la limite entre le Saint-Empire et les Pays-Bas. Il se trouve que là, le duc catholique de Clèves, Julier et Berck meurt sans héritier direct. Ses terres sont disputées par l'électeur Jean Sigismond de Brandebourg et par le duc Philippe-Louis de Neubourg, qui sont tous les deux luthériens. Mais il se trouve que ces terres commandent le cours inférieur du Rhin et donc le commerce fluvial. On voit bien l'importance économique. L'empereur ne veut pas qu'un protestant s'empare de ces terres et donc il place le territoire sous séquestre, sous l'autorité de son cousin, l'archiduc Léopold. Mais les protestants envahissent le duché, les troupes impériales s'emparent de Julier, l'empereur Rodolphe obtient le soutien de l'Espagne. Les protestants font appel à l'Angleterre et aux Provinces-Unies, ainsi qu'à la France. Alors la France ne va rien faire, parce que c'est au moment de l'assassinat d'Henri IV, et ça coupe toute velléité française d'intervenir. L'électeur de Brandebourg et le duc de Neubourg, donc ces deux luthériens, se partagent le duché, mais Neubourg meurt peu après, en 1614. L'affaire est finalement résolue par le traité de Xanten, en novembre 1614. Le fils de Neubourg obtient Julier. Par chance, il est devenu catholique. Donc ça résout le problème, pour l'empereur en tout cas. Donc il obtient Julier et Clèves, et non Julier simplement. Quant à Clèves, ça revient au l'électeur de Brandebourg, qui lui n'est plus luthérien. Entre-temps, il s'est converti au calvinisme. Ces multiples conflits, on le conçoit bien, provoquent une méfiance réciproque, dont témoigne la formation sur des bases confessionnelles de l'Union évangélique en 1608, sous la direction de l'électeur palatin Frédéric IV, puis Frédéric V. C'est lui qui est appelé, on en a parlé tout à l'heure, sur le trône de Bohême par les protestants. Et en face, en 1609, se crée la Ligue catholique sous l'autorité du duc de Bavière. Et les mariages princiers confirment la division confessionnelle. Louis XIII, épouse l'infante d'Espagne, Anne d'Autriche. De l'autre côté de la barrière confessionnelle, le roi d'Angleterre, Jacques Ier, marie sa fille à l'électeur palatin, Frédéric V. Mais un autre conflit, en partie religieux, déchire l'Europe du Nord-Ouest, la révolte des Pays-Bas. J'y ai déjà fait allusion dans ma première partie. Donc des territoires situés le long de la mer du Nord, la plupart appartenaient au duché de Bourgogne et au XVIe siècle, Charles, roi d'Espagne en 1516, empereur sous le nom de Charles Quint en 1519, en hérite. Les Pays-Bas sont donc une possession impériale et du roi d'Espagne. À l'abdication de Charles Quint en 1556, les Pays-Bas reviennent à son fils, le roi d'Espagne, Philippe II. Or, ces provinces acceptent mal la domination des Habsbourg pour deux raisons. La première tient à la manière de gouverner. Philippe II, déjà un peu Charles Quint, mais surtout Philippe II, ne respecte pas l'autonomie des villes et des provinces. Et seconde raison, celle qui va m'intéresser ici, est une raison religieuse. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, il y a deux faces, même si je vais laisser tomber la face plus politique. Raison religieuse. Les idées de Luther se sont en effet répandues assez vite, surtout au sud des Pays-Bas. D'abord à Anvers, puis tout le sud, et puis peu à peu, ça va se répandre un peu plus au nord. Mais la répression est assez forte. Charles Quint, en 1520, oblige à détruire tous les livres hérétiques. Et puis des édits se succèdent pour réprimer les idées nouvelles. La législation culmine avec l'édit d'octobre 1529. Entre 1529 et 1555, on compte 1700 bûchers dans les Pays-Bas du Sud, 240 dans les Pays-Bas du Nord, où le protestantisme est beaucoup moins répandu. Des inquisiteurs nommés par le pape mais travaillant sous l'autorité du Conseil du Prince et des conseils provinciaux, prennent en main la justice, malgré les protestations des provinces et des villes, au nom de leurs libertés et privilèges. Puis, les diocèses sont réformés, ce qui bouleverse les institutions ecclésiastiques traditionnelles. Les mesures du Concile de Trente sont reçues dans le pays en 1565. C'est donc une contre-réforme très agressive qui se met en place aux Pays-Bas et une contre-réforme prise en charge par un État très centralisateur. On peut comprendre que les principaux seigneurs protestent, seigneurs protestants, mais pas uniquement. Le principal d'entre eux, Guillaume d'Orange-Nassau, surnommé Guillaume le Taciturne, prince d'origine allemande, qui est gouverneur des Pays-Bas et qui est catholique, à ce moment-là en tout cas, proteste également, il déclare cette nouvelle législation religieuse inapplicable. Un compromis est signé en mars 1566 réclamant la tenue d'états généraux et surtout la suppression de l'acquisition. La régente Marguerite de Parme sursoit effectivement l'application de la législation, mais une révolte éclate en Flandre à partir du d'août 1566, puis gagne les autres provinces, ce qu'on appelle la révolte des Gueux. Gueux, c'est le surnom péjoratif qu'on va donner aux révoltés, mais qui vont s'attribuer eux-mêmes. C'est un peu comme le mot huguenot, qui au départ est plutôt péjoratif et que les protestants vont prendre comme motif de fierté, finalement. Donc c'est une révolte sociale contre les impôts, c'est une révolte nationale contre le joug espagnol, et c'est une révolte religieuse contre la répression anti-protestante. Elle s'accompagne d'un très fort iconoclasme. On détruit des vitraux, des images, des statues dans les églises. Les nobles s'opposent à une répression qui serait trop forte. Guillaume arrête les iconoclastes notoires, fait rétablir le culte catholique, mais il ne veut pas aller plus loin et il demande qu'on prévoie des églises pour les protestants. Philippe II, en revanche, veut rétablir l'ordre par la force. Il nomme un nouveau gouverneur, le duc d'Albe, qui organise une répression féroce. Des grands nobles comme Egmont, le duc d'Egmont, de Horn, sont ducs catholiques, mais modérés, sont exécutés en 1568. Guillaume s'enfuit en Allemagne. Et c'est là qu'il va se convertir au calvinisme. 1568, c'est le début d'une guerre, ce que aux Pays-Bas, on va appeler la guerre de 80 ans, donc jusqu'en 1648. Et désormais, la résistance au gouvernement espagnol se confond avec la défense du protestantisme. La révolte s'étend à toutes les provinces. Alors là encore, je vous fais grâce du détail de la guerre, parce que sinon on ne mangera jamais à 13h et Pierre-Jean Suriac n'aura jamais le temps de faire sa conférence. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que peu à peu, les provinces se coupent en deux. Le sud, état du Hainaut, de l'Artois, et puis quelques villes, concluent l'union d'Arras pour maintenir la foi catholique et l'obéissance au roi d'Espagne, mais dans le respect des libertés des villes et des provinces. Les provinces du Nord, quelques jours après cette union d'Arras, 1579, les provinces du Nord, quelques villes de Flandre et du Brabant, signent l'union d'Utrecht, qui, au contraire, interdit le culte catholique. En 1580, l'union d'Utrecht proclame la destitution de Philippe II. Cette division des Pays-Bas va permettre aux Espagnols de reconquérir les provinces du Sud, d'y rétablir le catholicisme, mais le Nord leur échappe, notamment grâce à l'aide fournie par l'Angleterre aux insurgés du Nord. Et donc, malgré la mort de Guillaume, qui est remplacé par son fils Maurice de Nassau, malgré des victoires de part et d'autre, la situation n'évolue plus guère à la fin du XVIe, au début du XVIIe. Un armistice est finalement conclu et finalement, en avril 1609, une trêve est signée pour 12 ans qui consacre la partition des Pays-Bas. L'indépendance des Provinces-Unies, c'est-à-dire le nord des Pays-Bas, n'est pas reconnue officiellement, mais c'est tout comme, elles ne dépendent plus réellement de l'Espagne. La question des relations entre les Provinces-Unies et l'Espagne se repose au terme des 12 ans, en 1621. Là, on est tout près de nos sièges de 1622. Or, les provinces unies sont profondément divisées entre une élite sociale de négociants qui aspire à la paix et à une tolérance religieuse, garante de la prospérité économique. En face, une noblesse, un petit peuple, une paysannerie et surtout le clergé calviniste sont eux partisans d'un pouvoir fort et d'une politique très nettement calviniste et anti-espagnole. Or, c'est ce parti qui l'emporte. D'abord sur le plan religieux, suite à un conflit sur la question de la prédestination 1618-1619. Ensuite, sur le plan politique, avec la domination de Maurice de Nassau, donc fils de Guillaume, sur l'ensemble du pays. Et Maurice de Nassau est favorable à un combat contre les catholiques et donc à la reprise de la guerre contre l'Espagne. De son côté, le gouvernement espagnol est dominé depuis 1621 par le comte Duc Olivares, premier ministre, principal conseiller du jeune roi Philippe IV, catholique zélé, favorable lui aussi à la reprise de la guerre, afin de redonner tout son lustre à l'Espagne, et partisan d'une alliance étroite avec les Habsbourg d'Autriche. La guerre recommence donc en 1621. L'Angleterre, là on est avec une puissance protestante sûre, apparemment depuis le schisme d'Henri VIII et surtout le règne d'Élisabeth Ière. En 1603, Jacques VI d'Écosse monte sur le trône d'Angleterre, sous le nom de Jacques Ier d'Angleterre. L'Écosse est un royaume très calviniste. Jacques a épousé une princesse protestante, Anne de Danemark. Bon, elle meurt en 1619. Lorsqu'il monte sur le trône d'Angleterre, le pays est en guerre contre l'Espagne. Donc on est vraiment dans un pays apparemment protestant. Mais Jacques Ier veut la paix, qui est signée avec l'Espagne en avril 1604. Il est partisan d'une tolérance des catholiques anglais à condition qu'ils prêtent serment à la couronne. Et donc il ferme les yeux sur une pratique clandestine du catholicisme d'un certain nombre de seigneurs à la cour. Alors, il est vrai qu'un complot catholique, la conspiration des poudres, hein, c'est rien de moins qu'un projet de faire exploser le palais de Westminster, où siège le Parlement. Donc cette conspiration de septembre 1605, qui échoue, on arrête les insurgés avant, cette conspiration compromet la politique de tolérance de Jacques Ier. Jacques Ier doit se montrer très sévère envers les catholiques, non conformistes en tout cas, ceux qui refusent toujours de prêter serment. Un acte du Parlement de mai 1606 impose un serment d'allégeance reniant l'autorité du pape sur le roi. Mais dans la pratique, la tolérance se poursuit. Alors qu'en face, le roi combat les puritains, c'est-à-dire les protestants les plus intransigeants, qu'il veut mettre en place un système épiscopal en Écosse. Alors c'est le roi et non pas le pape qui nomme les évêques, mais ça ressemble quand même un petit peu au système catholique. D'autre part, il maintient sa politique de rapprochement avec l'Espagne, pour des raisons géopolitiques, pas du tout pour des raisons religieuses, mais c'est l'Espagne quand même. Il cherche à marier son fils, le futur Charles II, à l'infante Marianne d'Espagne. Alors les négociations vont traîner, ça va échouer en 1623 et finalement c'est une princesse française, Henriette Marie, sœur de Louis XIII, qui va épouser Charles Ier. Par conséquent, même si Jacques Ier a un gendre, donc Frédéric V du Palatinat, très engagé dans la lutte anti-impériale et anti-catholique, même si en 1624 il finit par accepter que des Anglais aient le droit d'aller se battre contre les troupes catholiques lors de la guerre de 30 ans, Jacques Ier peut apparaître comme un soutien finalement pas si fiable que cela des protestants. Et donc, très rapidement pour finir, sur la guerre de 30 ans, elle est réactivée au début 1620. On l'avait laissée à la bataille de la Montagne Blanche, donc cette éclatante victoire catholique. Dans un premier temps, cette guerre concernait essentiellement la Bohême. Donc c'était la révolte finalement d'un royaume contre, enfin en termes politiques en tout cas, un royaume, la Bohême, contre son roi, Ferdinand. Donc question plus politique que religieuse, c'est ce qui explique que bien des États protestants allemands comme la Saxe refusent de soutenir les insurgés parce qu'ils se dressent contre leur roi légitime. Et en Angleterre, si Jacques Ier ne veut pas s'engager dans la guerre de 30 ans, c'est aussi pour cela, finalement, c'est des sujets du roi. Alors, ils ne sont pas de la même religion, mais c'est quand même le roi. Donc, leur permettre de se révolter contre le roi, les soutenir pour des rois qui veulent assurer leur autorité, ça pose problème. L'engagement de Frédéric V de Palatinat d'un côté, l'alliance de l'empereur Ferdinand avec la Ligue catholique ne suffisent pas pour transformer le conflit en une guerre vraiment religieuse. D'autant que, pour des raisons purement politiques, la Bohème est soutenue par le duc de Savoie catholique, par le prince de Transylvanie, vassal des Ottomans, pendant que le sultan ottoman, lui, propose une alliance avec les Habsbourg. Alors, l'aspect religieux, bon, il n'est pas inexistant, mais enfin, il n'est pas si évident que cela. Mais la répression menée par Ferdinand fait que certains princes protestants estiment que l'empereur outrepasse ses droits et que, en réalité, il cherche peut-être bien à supprimer le protestantisme. L'alliance entre l'empereur et le roi d'Espagne fait que la guerre pour l'indépendance des Provinces-Unies et la guerre de 30 ans se mêlent et donnent une couleur de plus en plus religieuse à ce conflit. Le résultat, c'est que davantage de princes protestants allemands s'engagent. Le roi de Danemark est favorable à une intervention. Il ne le fera qu'en 1625, mais on commence à y réfléchir au Danemark. L'Angleterre, on l'a vu, s'engage timidement, mais prend le parti des protestants malgré tout. La Suède est d'accord sur le principe pour entrer elle aussi dans le conflit. Alors elle ne le fera que beaucoup plus tard, en 1630. Le Brandebourg se rapproche des Provinces-Unies, des princes allemands protestants. Il se rapproche aussi des princes allemands protestants qui sont dans la guerre. Du côté catholique, si la France refuse de s'engager en raison de son opposition aux Habsbourg, la politique de Louis XIII en Béarn, dont on parlera sans doute tout à l'heure, donne l'impression que la France fait partie, elle aussi, de cette grande alliance catholique qui voudrait éradiquer le protestantisme. Même s'il n'y a pas de véritable internationale catholique dressée contre le protestantisme, même si les souverains catholiques mènent des politiques quelquefois indépendantes les unes des autres, s'ils ne s'entendent pas toujours entre eux, certaines convergences apparaissent et la vigueur de la réforme catholique peut alimenter ce fantasme d'une volonté concertée de supprimer le protestantisme. Et fantasme d'autant plus fort qu'il est alimenté par un millénarisme protestant. En Bohême, on note un renouveau des visions millénaristes vers 1600, on croit à l'imminence de la fin des temps. Cela s'inscrit dans un contexte plus large de développement des idées apocalyptiques dans les milieux protestants. Le déclin spirituel des églises, les persécutions, le retour en force du catholicisme créent des angoisses auxquelles répondent des visions, des prophéties autour d'un roi pacifique, Rex Pacificus. La défaite de la Montagne Blanche en Bohême augmente encore cette angoisse. De nombreux émigrés de Bohême ont des visions d'un fléau proche qui amènerait un changement brusque à l'ordre des choses. On voit des comètes, des étoiles filantes, la grêle, le tonnerre, les inondations, les sécheresses sont vues comme des signes de Dieu. Ces immigrés, ou certains d'entre eux, voient les armées du Nord affrontant celles du Sud qui préluderaient à la victoire finale du Christ. On a des visions de deux armées qui s'affrontent dans les cieux, des astres de ténèbres qui entourent un éclat de lumière venant du nord, et on pense à l'intervention du Danemark, de la Suède. Au-dessus de Torgau, en Saxe, on a une vision d'un lion, symbole de la Suède, qui cherche à s'emparer d'un aigle, donc, symbole de l'Empire. Le pasteur morave Comenius, un petit peu plus tard, mais c'est significatif de cette mentalité, ce pasteur Comenius est persuadé que l'humanité vit le terme du sixième millénaire, que la seconde venue du Christ est proche. Jusqu'en 1635, il croit à une issue positive, en faveur des protestants évidemment, du conflit. Il fait une tournée en Europe pour rallier des amis protestants. En 1625, il a rencontré, par exemple, à Breslau, un tanneur illettré qui avait vu des visions eschatologiques depuis 1616. En 1619, Comenius avait rencontré un charbonnier qui avisait le roi de Bohême de ne pas se presser de lutter contre les Habsbourg. et donc qui avait voulu conseiller les princes de Bohême. Bon, ou d'autres visions, je passe dessus, de Lyon, des prophétesses qui ont des trans épileptiques qui voient, elles aussi, le cas d'une d'entre elles, qui est conduite par son époux, c'est-à-dire Jésus, dans un jardin d'où lui est annoncée la destruction de la grande Babylone. Hein, on trouve des événements comme cela un peu partout, alors surtout en Bohême, mais également dans le Saint-Empire. Alors, il y a des manifestes Rose-Croix à partir de 1614. On a des feuilles volantes qui relatent des prophéties, des miracles, des visions, des pasteurs qui prophétisent, là encore, la fin des temps. Alors, des phénomènes très répandus dans le protestantisme de cette époque, qu'on trouve également dans le catholicisme. Hein, et on peut aller pratiquement jusqu'en France, où on n'a pas de telles relations de vision, mais des choses qui ressemblent à cela. On a l'impression que du côté catholique comme du côté protestant, on est engagé dans une lutte finale entre le bien et le mal. Et vu par le protestantisme, c'est Dieu et les protestants, qui sont ses sujets, qui luttent contre les derniers efforts de l'antéchrist. Or, depuis Luther, on se demande chez les protestants si le pape ne serait pas l'antéchrist. Les choses se précisent en France avec le pasteur Daniel Chamier, qui meurt au siège de Montauban en 1621, qui lui identifie très clairement le pape et l'antéchrist. En 1603, le synode national des églises réformées de France, qui s'était réuni à Gap et qui était présidé par Chamier, a fait même de l'identification pape-antéchrist un article de foi, ce qui a évidemment provoqué une réaction furieuse aussi bien de l'Église catholique que de la monarchie française. Donc, une mentalité, une vision du monde très marquée par cette conviction qu'on est dans les derniers temps. Et je termine, je vous rassure, par cette évocation du jubilé de 1617. Les tensions sont particulièrement visibles en 1617, lorsque les protestants commémorent le centenaire de la Réforme. Alors, vous avez, là, je vous ai mis quelques, j'aurais pu le mettre pour le paragraphe précédent, quelques relations des feuilles volantes qui montrent ces visions, toutes ces prédictions, annonçant la fin des temps. Alors, 1617, donc jubilé de la Réformation. Ce jubilé a pour conséquence d'affermir la communauté protestante qui était divisée, je rappelle, entre luthériens et calvinistes. Et au début, on a une compétition entre la Saxe luthérienne et le Palatinat calviniste. L'électeur de Saxe utilise ce jubilé pour renforcer l'identité luthérienne de son territoire. Tout ce qui dépend de l'État de Saxe, on doit fêter à une certaine date le jubilé de 1617. Du coup, l'électeur palatin Frédéric V, chef de l'Union évangélique, principal prince calviniste de l'Empire, célèbre lui aussi le jubilé, à une date un petit peu différente, évidemment, et indépendamment de l'électeur de Saxe, pour apparaître comme le leader des princes protestants allemands. Il considère que c'est de son devoir d'intervenir quand les protestants sont en danger. Et finalement, Frédéric V arrive à rallier à lui de nombreux princes protestants. Hein, au moment où les réformés sont à la recherche, je vous ai dit, d'un Rex Pacificus, Frédéric V, auréolé d'une aura millénariste, beaucoup le voient comme justement le prince protestant des derniers temps, on voit en lui le défenseur de la paix. Finalement, presque tous les États protestants de l'Empire vont se joindre à ces manifestations de 1617, manifestations qui célèbrent un Luther très anticatholique, très belliqueux. Et particulièrement intéressant, voilà, est une affiche publiée à cette occasion. On peut voir pour finir, Elle représente une légende contemporaine, le rêve prophétique de Frédéric III de Saxe. Frédéric III, c'était le prince du temps de Luther, qui avait protégé Luther. Sur cette affiche, on voit Luther qui écrit sa protestation contre les indulgences sur la porte de l'église de Wittenberg. Pour cela, il utilise une grande plume et dont on voit que la plume a une pointe qui traverse les oreilles d'un lion, allusion très claire au pape Léon X, dont, un peu plus loin, la tiare tombe à terre. Hein, donc c'est la plume de Luther qui fait s'écrouler la papauté. Hein, l'avènement du protestantisme, sur cette affiche de 1617, c'est le prélude du combat final contre le pape antéchrist. Alors c'est d'autant plus provocateur, ce jubilé, que la célébration d'un jubilé, c'est une fête catholique, traditionnellement. C'est réservé au pape, qui, en plus, à l'occasion d'un jubilé, délivre des indulgences. Hein? Donc on retourne complètement les choses. C'est vu comme une provocation de la part des catholiques. Et d'ailleurs, le pape Grégoire XV va ordonner lui aussi un jubilé cette année-là pour célébrer l'abolition des hérésies. Hein? On est en 1617, on n'est pas si loin que ça de Négrepelis, de Saint-Antonin. Alors, que nous apprend tout cela sur ces sièges, Négrepelis, Saint-Antonin, difficile à dire. La plupart des protestants de l'époque n'avaient sans doute pas connaissance des prophéties millénaristes évoquées. Ils ne ressentaient pas forcément les progrès de la réforme catholique autrement qu'à l'échelon local. Savoir ce qui se passe en Bohême, je ne suis pas sûr que les paysans de Négrepelis le savaient à ce moment-là. Donc ils n'avaient pas conscience de l'évolution des rapports de force en Europe. Et ça peut expliquer d'ailleurs que dans de nombreuses régions françaises, c'est le cas en Dauphiné par exemple, pourtant en région très protestante, les Huguenots ne se sont pas soulevés. Mais les chefs, Rouen, Soubise, La Force, etc., eux connaissent le contexte. Est-ce qu'ils participent à cette effervescence messianique, à cette mentalité obsidionale de citadelle assiégée, de religion qui serait vouée à l'extinction par ses ennemis, ou n'agissent-ils que par intérêt nobiliaire ou par le rôle qu'ils s'attribuent de protecteur des protestants français menacés par un parti catholique? Difficile à dire. On ne peut pas exclure néanmoins cette connaissance. On peut en tout cas supposer que ce contexte européen d'affrontements religieux, de vision du monde imprégnée de messianisme et de lutte contre l'antéchrist a pu entrer en ligne de compte dans leur décision de se lever contre les mesures de Louis XIII. Je vous remercie.
J'ouvre le débat. Je pense que vous avez sans doute des questions. Monsieur Malric, pour commencer.
Oui, je pense quand même que les nouvelles circulaient. Et non seulement les nouvelles, mais les acteurs, les personnages. Alors nous avons quand même l'on a analysé l'an dernier au colloque qui s'était tenu sur le centenaire du siège de Montauban, avec la fameuse visite du Carme, le père Rousola, qui avait été l'inspirateur en quelque sorte de la bataille de la Blanche à Prague, et qu'on voit surgir à Montauban, puisque c'est à lui d'ailleurs que on attribue la paternité des fameux 400 coups qui sont devenus maintenant une fête populaire. Donc, et qui vient rencontrer Louis XIII au château de Picquecos pour essayer de l'entraîner dans la stratégie qui est alors justement celle des Habsbourg. Il n'y parvient pas d'ailleurs. Mais sa présence, sa venue à Montauban montre bien qu'il y a une circulation de ses projets, de ses représentations, même à très longue distance, puisque dans ce cas, effectivement, il avait dû parcourir, vous le voyez, tout ce trajet avant de repartir à Rome, d'ailleurs, puisqu'en réalité, il était aussi investi de mission par le pape. Voilà. On a donc cet exemple. Et du côté protestant, il est vraisemblable que la circulation aussi, d'autant que du côté protestant, le développement de la lecture était plus grand, donc les livres, les fascicules pouvaient circuler aussi, je pense, très facilement.
Non, ce que je voulais dire, c'est que dans l'exposé que j'ai fait, présent de manière claire, enfin j'espère que c'était clair, la situation européenne à ce moment-là, bon, ça peut être fait parce qu'on est au XXIe siècle, qu'on peut synthétiser tout cela. Les acteurs de l'époque devaient en avoir un sentiment, mais beaucoup plus confus, peut-être plus angoissant du coup, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe, sans doute assez fortement du côté catholique, bon, il y avait effectivement les carmes, et puis cette présence de tous ces religieux qui sont tous des ordres internationaux. Donc les informations circulent du côté protestant, c'est moins évident. Alors c'est vrai qu'il y a la lecture, mais bon, ces feuilles volantes, elles sont en allemand aussi pour beaucoup, donc c'est sans doute plus difficile, mais très probable qu'on connaissait quand même un peu quelque chose, et notamment dans la noblesse. Oui, les Rouens étaient forcément au courant, oui.
Merci pour votre exposé qui est vraiment balancé, je dirais. Ma question, elle porte sur le sens de la guerre de 30 ans, qui est le cadre de tout votre propos, et j'y viens par la conclusion de cette guerre, qui est le traité de Westphalie. Le traité de Westphalie, c'est encore aujourd'hui celui qui est regardé comme l'acte de naissance de l'Europe des États-nations. En 1621, on est loin de ça. Et votre exposé est balancé, puisque vous faites apparaître à la fois les causes très politiques, parfois des affrontements, des alliances entre monarques, entre États qui ne sont pas encore des États-nations. Et puis, d'un autre côté, vous avez beaucoup parlé, et surtout à la fin, de l'importance de la réforme catholique d'un côté, du messianisme protestant de l'autre, et au début de la guerre de 30 ans, c'est quand même ça qui a l'air de dominer. Donc je voudrais voir ce que vous en pensez, vous. Est-ce qu'il y a une évolution, au fond, pendant ces 30 ans, qui fait que progressivement, c'est le fait national qui prend le dessus dans les relations intra-européennes, ou si vraiment on a exagéré peut-être l'affrontement religieux dès le début?
Alors, l'interprétation traditionnelle, c'est effectivement qu'on va de plus en plus vers une sorte d'effacement du religieux, dont un des symboles serait que le pape n'a pas son mot à dire, finalement, dans les traités de Westphalie. Hein, la fin. On a tendance quand même à revenir un peu dessus, d'une part parce qu'au début, alors, est-ce que c'est des affrontements entre États, nations, entre religions? Je crois qu'on ne peut pas vraiment différencier, c'est l'un et l'autre, enfin, c'est complètement mêlé. Donc séparer pour la Bohème, le sentiment national et le sentiment religieux n'aurait pas beaucoup de sens. Et de même du côté des Habsbourg, qu'ils soient d'Espagne ou d'Autriche, pour eux, l'État fort ne peut être qu'un État catholique. Donc là encore, séparé n'a pas trop de sens. Alors la guerre de 30 ans rebat un peu les cartes, notamment avec des États un peu trublions comme la France, État catholique qui se bat du côté de la Suède contre la Bavière, par exemple. C'est au nom d'un catholicisme qui ne soit pas le catholicisme espagnol. Enfin, c'est comme ça que les Français justifient. Pas de raison de mettre en doute, mais enfin, quand même, ça pose problème. Donc ça rebat les cadres, mais en même temps, même s'il n'y a plus conversion obligatoire, enfin un prince, une confession, le système de la paix d'Augsbourg de 1555 n'est plus, on le reprend plus en 1648. Malgré tout, on a des États largement confessionnels après 1648, et on en reparlera peut-être lors du débat ce soir sur l'expression guerre de religion. Il y a un ouvrage récent, en partie d'une thèse faite par un Allemand, qui montre que l'expression ne démarre pas vraiment, mais commence à se répandre plutôt à la fin du XVIIe siècle, sous l'époque de Louis XIV, et pour attaquer la politique de Louis XIV, ou éventuellement pour d'autres défendre ce qui se passe, et on va l'appliquer, alors rétrospectivement, aux guerres du XVIe siècle, ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, les guerres de religion, mais à l'époque, ça s'applique beaucoup aux guerres qui se produisent à la fin du XVIIe, voire au XVIIIe siècle. Donc l'évacuation du religieux ou la diminution du religieux, je crois qu'il faut prendre avec beaucoup de nuances, y compris pour le pour après la période qui nous intéresse.
Là, vous êtes fidèle à votre propos balancé.
Je me suis demandé, vous avez parlé à plusieurs reprises de conversion protestant au catholicisme, de catholique au protestantisme, ou même de luthérien au calvinisme, ou l'inverse. Je me demandais si on avait le moyen de mesurer finalement quelle était la part de la conviction personnelle ou de la des motivations plus politiques dans ces conversions. Est-ce qu'on a des journaux,
Oui, globalement, non. Après, pour certains individus, il peut y avoir... on a pendant la guerre de 30 ans, le journal d'un potier de Colmar, Günzer, je crois. Qui tient son journal, alors qui est très attentif au signe des cieux, justement, à ce moment-là. Donc là, à le lire, on a vraiment l'impression d'une conviction profonde. Mais c'est un cas individuel, on peut en trouver d'autres. Il y en a quelques-uns comme ça où on peut le voir. Je dirais qu'on peut soupçonner une conviction quand la personne a beaucoup à y perdre à se convertir. Parce que sinon, on ne voit pas bien pourquoi elle le ferait, pour autre chose qu'une conviction. Mais quand son ralliement au catholicisme ou au protestantisme, dans le cas d'un seigneur, lui permet d'agrandir ses terres, je crois qu'il ne faut pas inversement soupçonner systématiquement de l'opportunisme. On peut à la fois, évidemment, être convaincu et puis trouver un avantage matériel. Mais là, c'est difficile à dire. Donc là, en dehors de cas individuels, je ne me prononcerai pas. Là.
Merci.